Laudetur Jesus Christus.
La relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, célébrée hier à Carbis Bay dans les Cornouailles, président américain et premier ministre britannique ont affiché leur convivialité malgré des désaccords autour du Brexit et de l'Irlande du Nord. Un front commun d'importance à quelques heures de l'ouverture du G7 dans la station balnéaire d'Angleterre. Après 8 ans d'engagement massif, le retrait progressif au Mali, fin de l'opération militaire française Barkhane. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Paris souhaite réarticuler la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Journée de prière, abstinence et jeûne au Burkina Faso. En ce vendredi, solennité du Sacré-Cœur de Jésus, c'est ce qu'a décidé le cardinal Philippe Ouédraogo pour panser les plaies des fidèles ouvertes après les attentats djihadistes du week-end dernier. Ouagadougou qui vient de neutraliser 10 terroristes hier. Et puis veille de législatives anticipées en Algérie, un scrutin décidé par le président Tebboune pour tenter de redonner un peu de légitimité populaire à un régime contesté depuis maintenant plus d'un an. Analyse dans quelques minutes.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Vaccin et climat au cœur du sommet du G7. Le sommet des dirigeants des grandes puissances débute aujourd'hui dans le sud-ouest de l'Angleterre. 3 jours de rencontres diplomatiques en physique après des mois fastidieux de visioconférences. Et avant le lancement de ce sommet, Boris Johnson et Joe Biden ont affiché hier un front uni sur l'urgence climatique, approuvant une nouvelle charte de l'Atlantique qui insiste aussi sur la nécessité de faire face aux cyberattaques. Les deux alliés se sont entretenus près d'une heure et demie et la question du Brexit s'est invitée à l'ordre du jour. Le point à Londres, Jean Jaffré.
Une bouffée d'air frais, c'est ainsi que Boris Johnson a qualifié l'action du président Biden, déterminé à coopérer avec les alliés des États-Unis sur les questions internationales. Notamment en ne boycottant pas les institutions internationales comme le faisait Donald Trump. Les deux pays ont signé une charte de l'Atlantique en écho à la rencontre entre le président Roosevelt et Winston Churchill en 1941. Les deux pays s'engagent à relever de concert les grands défis du 21e siècle, notamment en santé publique, changement climatique et cybersécurité. Boris Johnson entend se servir du sommet du G7 pour projeter une image dynamique et conquérante du Royaume-Uni, libéré du joug européen et qui réoriente ses liens et échanges vers la zone Indo-Pacifique. Parler de « Global Britain » n'a guère de sens si l'on n'entretient pas des liens amicaux avec l'Union européenne, le premier bloc commercial à notre porte, a taclé Lisa Nandy, la porte-parole du Parti travailliste pour les affaires étrangères. Et de fait, le Brexit s'est invité aux discussions alors que les négociations entre Londres et Bruxelles sur l'application du protocole nord-irlandais sont bloquées. Le président Biden, qui est fier de son ascendance irlandaise, a mis en garde contre toute mesure qui mettrait en péril l'accord de paix du Vendredi Saint, dont les États-Unis son garant. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Les dirigeants du G7 qui vont s'engager lors du sommet à distribuer 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays pauvres afin de mettre fin à la pandémie en 2022. Une précision apportée hier par la présidence britannique du groupe. La famine en cours au Tigré suscite l'inquiétude des États-Unis et de l'Union européenne. Un appel conjoint à l'action dans ce pays a été lancé hier. La famine est déjà dans certaines zones menaçant la vie de centaines de milliers de personnes. C'est inadmissible, s'indigne l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Annonce attendue mais non moins fracassante qui rebat les cartes dans le Sahel. Emmanuel Macron hier soir a signé la fin de l'opération Barkhane, la force militaire de plus de 5000 soldats français qui depuis 2013 lutte dans la région contre les filiales locales de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Une décision qui intervient quelques semaines après la mort soudaine du président Idriss Déby au Tchad et un deuxième coup d'État au Mali. Précision Marie-Christine Bonzon.
Emmanuel Macron a indiqué que les soldats de la force Barkhane vont entamer un retrait progressif. Pour autant, l'armée française restera au Sahel, mais avec ce qu'Emmanuel Macron appelle un nouveau cadre. Selon M. Macron, il y aura désormais, je cite, « une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et puis la lutte contre le terrorisme qui sera menée par des forces spéciales composées de Français, de forces africaines, européennes et internationales ». Le président Macron n'a pas fourni de calendrier ni pour le retrait de Barkhane, ni pour la mise en place du nouveau cadre d'opération. La classe politique française et le gouvernement français cherchent depuis longtemps à sortir leur pays d'un engagement militaire de plus en plus considéré comme un bourbier. La mort d'une cinquantaine de soldats français, le coût financier du déploiement, l'absence des États sahéliens dans les zones reprises aux filiales de l'État islamique et d'Al-Qaïda ont alimenté la frustration à Paris. Frustration renforcée par la mort d'Idriss Déby et par le projet du nouvel homme fort du Mali qui envisage de négocier avec les groupes islamistes. Cependant, M. Macron affirme que sa décision de repenser le déploiement militaire français au Sahel n'a rien à voir avec l'élection présidentielle prévue en France dans moins d'un an. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
Une journée de jeûne et de prière demandée aux fidèles ce vendredi par le cardinal Ouédraogo pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso. L'archevêque de Ouagadougou invite les catholiques à prier et être solidaires de toutes les victimes de ces attaques qui frappent le pays. Cette invitation intervient après le pire massacre de civils qu'a connu le Burkina Faso depuis 2015. C'était la semaine dernière, entre 132 et 160 habitants du village de Solane dans l'Est ont été tués par des inconnus. Pas si inconnus que cela. Selon Tanguy Kideler, il est chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique à l'Université Paris-Nanterre.
C'est un massacre qui n'a pas encore été revendiqué, mais il y a quand même un faisceau d'indices concordants. Selon les premiers témoignages des victimes, ce seraient des groupes djihadistes qui auraient donc opéré ce massacre en ciblant justement des volontaires pour la défense de la patrie. Donc ces supplétifs miliciens qui soutiennent les forces de défense et de sécurité au Burkina Faso et qui sont issus justement des populations locales.
Le problème est-il lié à la religion ?
C'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez aussi des choses qui s'inscrivent dans des conflits extrêmement locaux. C'est-à-dire que justement, ça a pu être une action de représailles, ça a pu être une expédition punitive. Ça peut être aussi une volonté justement de marquer les esprits, puisqu'on sait qu'il y avait eu il y a peu de temps une visite du ministre de la Défense dans la zone qui avait justement dit que la sécurité était de nouveau présente pour les populations, etc. Donc ça peut être aussi là une volonté de faire une action extrêmement symbolique.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Hier, dans le nord du Burkina, une dizaine de terroristes ont été neutralisés dans une embuscade, indiquent des sources sécuritaires. Une toute petite perspective de dialogue en vue en Colombie. Alors que les manifestations contre le gouvernement Duque se succèdent depuis la fin avril avec une certaine répression policière décriée par la population, le pouvoir s'engage à enquêter sur 21 homicides survenus pendant la mobilisation sociale. Une décision qui fait suite à la visite dans le pays cette semaine de la Commission interaméricaine des droits humains. 5 jours après le second tour de l'élection présidentielle, le Pérou n'a toujours pas de nouveau chef d'État. L'écart entre les deux candidats était jusqu'ici trop serré pour déclarer un vainqueur. Mais hier, les organismes électoraux ont finalisé le comptage des voix. C'est Pedro Castillo qui l'emporte avec près de 70 000 voix d'avance sur son adversaire Keiko Fujimori. Sauf que cette dernière conteste cette avance et demande l'invalidation de 200 000 voix. À Lima, Viloen Munoz Boileau.
Hier soir, des centaines de partisans de Pedro Castillo se sont rassemblés dans le centre de Lima pour exiger que leur candidat soit proclamé vainqueur. Un peu plus tôt, l'ONP, l'organisme électoral, a annoncé que tous les bulletins de vote valides avaient été comptabilisés et qu'il fallait désormais attendre la fin de la révision des bulletins contestés par les deux partis pour finaliser le processus. Si la victoire de Pedro Castillo semble acquise, dès lundi soir, anticipant sa probable défaite, Keiko Fujimori a dénoncé de supposées fraudes sans en apporter la preuve. Accusation d'ailleurs immédiatement démentie par les organismes électoraux et les observateurs internationaux. Mais la candidate de la droite a renchéri mardi en demandant également l'invalidation de 200 000 bulletins de vote dans l'espoir de rattraper son retard sur son rival, ce qui est peu probable. Les organismes électoraux sont toutefois tenus de procéder aux vérifications nécessaires et ont appelé les deux candidats et la population au calme jusqu'à la fin du processus électoral. Pedro Castillo s'est engagé à attendre les résultats officiels, mais hier son parti a appelé Keiko Fujimori à accepter sa défaite. Si cette dernière tient tant à remporter cette élection, c'est notamment parce qu'elle est sous le coup d'une enquête pour corruption dans le cadre du financement illégal de ses précédentes campagnes électorales. Or, si elle n'est pas élue, faute d'immunité présidentielle, elle serait désormais sous la menace d'une condamnation du parquet. À Lima, Viloen Munoz Boileau pour Radio Vatican.
Cuba suspend les dépôts bancaires en dollars liquides, annonce de la Banque centrale cubaine hier. Elle justifie cette mesure comme une protection vis-à-vis de l'embargo américain persistant. À la une de l'actualité, Vatican, le message du pape François adressé hier soir à la Fédération latino-américaine des collèges de la Compagnie de Jésus. Le souverain pontife, argentin et jésuite, a encouragé l'ordre religieux à diffuser la valeur du don de la vie, particulièrement dans le réseau des écoles jésuites. Et puis la réponse au pape de l'archevêque de Munich et Freising, le cardinal allemand Reinhard Marx a assuré hier le pape François de son obéissance après le refus de sa démission liée au scandale d'abus sexuels qui affecte l'Église en Allemagne. Plus d'informations sur toutes ces nouvelles à l'adresse vaticannews.va. Dès les élections législatives anticipées ce samedi en Algérie. Un scrutin décidé par le président Abdelmadjid Tebboune pour tenter de redonner un peu de légitimité populaire à un régime vivement contesté depuis plus d'un an dans la rue par le Irak, ce mouvement de la société civile qui réclame un changement complet des institutions et qui refuse de participer au vote. Ce qui n'est pas le cas des partis islamistes, prêts à contribuer au changement et à gouverner, assure-t-il, et qui pourraient, à la faveur du boycott des démocrates du Irak et au discrédit des partis traditionnels, obtenir un bon résultat. Pour la présidence, il s'agit surtout de maintenir son calendrier et maintenir le pouvoir de l'armée, vrai décideur en Algérie. Dans ce contexte, qu'est-ce qui a changé dans le pays depuis le lancement du mouvement du Irak? La réponse de Luis Martinez, il est directeur de recherche aux séries de Sciences Po Paris.
Sur le plan institutionnel, pas grand-chose. L'élection présidentielle a été quasiment imposée par l'armée. Les élections législatives, eh bien finalement, anticipées apparaissent davantage comme une volonté du président et de l'armée de renouveler le Parlement dans la perspective de retrouver des élus compatibles avec la nouvelle équipe. Sur le plan sociétal, on a une conquête de l'espace public par des acteurs de la société civile qui ont réussi, disons, à imposer d'une certaine manière le débat autour de la nécessaire transformation, si ce n'est changement, du régime. Reste ensuite à voir si ce débat est accepté, intégré par l'armée, les équipes dirigeantes politiques et administratives qui soutiennent cette armée aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est bien sûr que les idées qui traversent la société vont prendre beaucoup de temps pour trouver finalement une illustration dans les institutions.
Quels sont ces élus qui sont compatibles avec le pouvoir, selon vous ?
On a à la fois dans les partis traditionnels, que ce soit le FLN, le RND, donc des partis dits d'État, c'est-à-dire dont les élus en général sont là pour gérer les affaires courantes, entre guillemets, de l'État. Et puis là, on a un deuxième type de personnel qui se mobilise pour s'offrir à l'armée. Ce sont les islamistes dits modérés, du MSP, mais aussi d'autres configurations, qui depuis un an ne cessent de dire qu'ils s'opposent à un changement de régime, ils ne boycottent pas les élections et ils considèrent que la transformation telle qu'elle est souhaitée par le président actuel dans son programme de l'Algérie nouvelle est compatible avec leur propre, disons, vision. Donc on va avoir au Parlement vraisemblablement un bloc qui sera islamo-nationaliste et qui sera sans doute celui qui va accompagner cette Algérie nouvelle de Tebboune.
Qu'est-ce qui empêche, au-delà de la répression, toute cette société civile de se présenter aux élections ?
Finalement, la difficulté qu'a aujourd'hui le mouvement Hirak, qui exprime vraiment ces transformations de la société civile. Aujourd'hui, il est réticent, pour ne pas dire plus, à la stratégie du basculement dans ce qu'on pourrait appeler, disons, l'espace politique. Donc on sent bien que dans l'espace civil, il a trouvé une marque, une marge de manœuvre, une légitimité, et sans doute aussi une dynamique qui lui permet de rester comme une alternative souhaitée, désirée, mais qui n'arrive pas à, ou qui ne souhaite pas plus précisément, construire sur cette base-là, un projet politique. Alors les raisons, elles sont simples, c'est que pour construire un projet politique, il faut donc avoir des compromis entre les multiples tendances qui structurent ce mouvement Hirak. On voit bien les difficultés auxquelles s'exposent ces acteurs de la société civile, mais on voit bien aussi que s'ils restent dans la société civile, ils risquent de devenir des acteurs de protestation, mais ne pas réussir à devenir des acteurs de transformation d'un régime qu'ils considèrent comme aujourd'hui à bout de souffle.
Qu'est-ce qui est en jeu alors ?
C'est l'apprentissage mutuel des rapports de force. C'est-à-dire que l'armée est bien consciente qu'elle ne peut pas éternellement résister à des revendications sociétales et politiques. Donc à un moment donné, cette armée va bien mesurer le fait que elle ne peut pas gouverner contre une société dans sa totalité. Bien évidemment, ces ouvertures doivent être discutées, accompagnées par des acteurs politiques et civils qui n'envisagent pas le changement radical. Donc il faut apprendre en fait des pays autoritaires passés qui ont réussi leur transition, le Chili, le Brésil. Et donc là, on voit que ce qui s'est mis en place a plus été des compromis qui ont permis à l'armée de préserver ses intérêts et ses privilèges et à la société civile d'accéder finalement à des ressources de l'État et progressivement élargir l'assiette politique.
Interrogé par Xavier Sartre, Luis Martinez, chercheur aux séries de Sciences Po Paris, spécialiste de l'Algérie, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de votre écoute et fidélité quotidienne toute cette semaine. Le retour de l'actualité vaticane, pontificale et internationale, c'est à 13h en direct de Rome. Excellente journée.